www.libradio.org. La radio qui entretient le suspense.
Alors, nous sommes à la salle du Faubourg, c'est Libre Radio, et nous sommes en compagnie de Mathilde et de Théo. Bienvenue à vous deux. Nous nous étions déjà vus au bus Cartouche pour parler de l'action que vous prépariez à ce moment-là. Et là, vous en êtes de retour. Alors, on va replacer le contexte. Juste peut-être dire qu'avant, nous sommes aujourd'hui donc le 9 novembre et Libre Radio est au Faubourg, pas pour rien, mais pour enregistrer et relayer les deux choses. Hein. Tout d'abord, le 9 novembre, la commémoration de la fusillade, de la tuerie du 9 novembre 1932. Cette année où la pierre du souvenir a été placée à l'endroit exact de la tuerie, donc devant une image, hein, sur l'esplanade d'une image. C'est la deuxième année qu'on s'y retrouve, mais la pierre est pour la première fois sur sa place historique. Et puis pour se souvenir de la grève générale de 1918, hein, du 12 au 14 novembre 1918, une grève générale a eu cours dans toute la Suisse. Et voilà, ce soir on évoque tout ça, donc les podcasts seront bien entendu mis à disposition. Et puis nous, on trouvait intéressant de s'intéresser justement aux modalités et aux types de luttes contemporaines qui sont promues et qui sont déclenchées par différents collectifs. Alors justement, à l'aune de ces nouvelles luttes, eh bien, il y a celle qui concerne Ende Gelände, qui par ailleurs n'est pas d'aujourd'hui, elle date quand même de plus d'une dizaine d'années. Mais voilà, il y a eu ici à Genève une mobilisation qui date de maintenant quelques semaines, où une cinquantaine, un peu plus, de personnes sont parties de Genève et PACO et sont allées jusqu'à la forêt de Hambach en Allemagne, dans l'ouest de l'Allemagne, pour s'opposer, en quelques mots, là je vais faire juste la présentation, mais après vous compléterez Mathilde et Théo, pour s'opposer à l'extractivisme, notamment du lignite, hein, du charbon, et du coup de la réduction du défrichement massif de cette forêt de Hambach, dont on sait qu'elle est plurimillénaire et qu'elle contient une richesse écologique particulièrement prégnante, importante, et qu'on sait que voilà, l'extractivisme, on sait l'impasse que cela représente. Mais alors, racontez-nous déjà peut-être qu'est-ce qui vous a conduit à vous rendre là-bas, et puis ensuite, eh bien, vous nous ferez le témoignage de comment ça s'est passé.
Donc c'était super comme action, il y avait pas mal de raisons différentes nous ont mené là-bas. L'idée de faire une action de masse, une désobéissance civile, de rencontrer des gens qui luttent aussi avec nous pour les mêmes raisons, et puis évidemment, bah, du coup, apporter un soutien sur place aux personnes locales qui luttent contre l'extraction du charbon, contre l'extension des mines et donc la destruction de la forêt de Hambach, où on a justement des amis écolos qui occupent la forêt depuis un certain temps. Aller vraiment en soutien, tester justement différents modes d'organisation et de démocratie consensuelle, et puis vraiment s'inspirer un peu de ce qui se passe ailleurs pour avoir des idées pour la suite de comment lutter ici et ailleurs. Et voilà, c'est un certain nombre de raisons et on était très enthousiastes à l'idée de partir.
D'accord. On va attendre que les applaudissements cessent et pour les interventions et le débat qui ont cours là juste à côté de nous. Dis-moi Mathilde, de quelle manière est-ce que tu as entendu parler de cette action et qu'est-ce qui t'a décidé toi également de t'y joindre ? C'est vrai que lorsque l'on s'était vu, on avait déjà évoqué l'analogie avec les zones à défendre. Est-ce que c'est ça par ailleurs qui t'ont convaincu de l'urgence d'y aller ?
J'avais déjà participé à une action de désobéissance civile de masse cet été aux Pays-Bas, à Code Road, qui s'est faite aussi dans le cadre de ces Ende Gelände, en fait, avec sous les mêmes organisations. Donc c'est pour ça aussi que j'ai entendu parler de l'action en Allemagne. Et comme l'a dit Théo, il y a vraiment cette idée d'action de masse qui était importante pour moi dans une désobéissance civile qui est non-violente. Là, en l'occurrence, la non-violence permet tout de même de passer les barrières et puis de rentrer dans les lieux, dans les mines, qui n'était pas forcément le cas typiquement cet été où on avait défini qu'on passait par les barrières pour des raisons de sécurité. Et cette fois, c'était le cas. Par contre, c'est une non-violence qui ne tolère pas le sabotage, pour ce qui est en tout cas de Ende Gelände.
On parle là effectivement d'extractivisme. Donc l'idée, c'est qu'une entreprise privée ou un conglomérat d'entreprises privées pille ses ressources. On entend beaucoup parler d'extractivisme en Amérique latine. Là, c'est tout près, c'est en Allemagne. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ceci est encore court, alors qu'on sait bien que les énergies fossiles, eh bien, sont beaucoup sont pour le moins nocives, que le fait de les extraire conduit à beaucoup de choses extrêmement néfastes, et également, si j'ai bien compris, l'expulsion de villages, de gens qui ont dû vraiment quitter la région. Comment est-ce qu'on en arrive à cette situation-là, selon vous ?
Simplement parce que déjà le mouvement pour des énergies renouvelables n'est pas assez fort, malheureusement. Je pense qu'en Allemagne, typiquement, il y a eu un grand mouvement pour sortir du nucléaire, qui a fait malheureusement qu'on a beaucoup basculé dans le charbon. Si je ne me trompe pas, c'est le cas dans d'autres pays d'Europe où on retourne en fait vers le charbon. La prochaine COP qu'il va y avoir en Pologne, d'ailleurs, elle est extrêmement axée sur le charbon. Donc c'est une énergie qui revient en fait.
Et alors, que l'on sait la quantité de choses néfastes que cela amène. Parce qu'effectivement, on a parlé des villages expulsés, des forêts qui diminuent, mais également de production de gaz à effet de serre, de gaz toxique, hein, dans les mines, les gens tombent malades, etc.
Ouais, exactement. Donc l'entreprise RWE, en l'occurrence, est considérée comme le premier pollueur en Europe en termes d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Puis comme le rappelait Mathilde, justement, y a des études très controversées qui essayent justement de légitimer ce genre d'entreprise, justement, et en disant que finalement c'est pas forcément problématique, qu'on pourrait typiquement avec la prochaine COP qui est prévue, on pourrait utiliser en fait le CO2 dans l'atmosphère et puis le reprendre, etc. Mais c'est des technologies qui sont vraiment très controversées et on n'en sait pas grand chose dessus, et ça sert juste surtout à légitimer l'emploi des énergies fossiles, qui est extrêmement problématique. Et puis c'est surtout la raison pour laquelle ce mode d'énergie continue à être utilisé. C'est essentiellement dû au système capitaliste qui privilégie les profits à court terme, etc., le productivisme.
Voilà, alors effectivement, j'allais vous interroger. Déjà, peut-être rappeler ce que signifie COP, ce qu'est la COP. Donc, ce sont ces grandes réunions et que Mathilde mimait des guillemets avec des grands guillemets. C'est pour ça que je me suis arrêté en plein au moment où j'allais dire réunion écologique, écologiste. Enfin, ce sont des convergence plurinationale de personnes qui seraient des spécialistes politiques ou institutionnels autour de l'écologie, qui se réunissent pour, en gros, pas faire grand chose, mais surtout pour donner en tout cas un voile ou un phare comme ça, de phare FAR, je veux dire, une impression de faire quelque chose pour le climat. Et ce qui, en fait, au bout du compte, on s'aperçoit bien que c'est que l'utilité du truc n'est pas vraiment. Enfin, on peut la contester pour le moins. Que ça vous va comme une sorte de définition de la
Exactement, ouais. C'est vraiment des conférences qui ont pour but de masquer les vrais problèmes et puis d'agir en apparence sans rien faire dans le fond. Et puis évidemment, c'est très problématique. On est d'accord là-dessus.
Ok, alors comment ça s'est passé en Allemagne ? Vous partez d'ici, on va peut-être rappeler les conditions du voyage. Vous organisez un bus qui a fait quelques petits arrêts. Et dans le cheminement, vous arrivez à une cinquantaine là-bas, c'est ça ?
Donc on avait un départ aussi avec Lyon, en fait. Du coup, on est arrivé là-bas en fin de soirée, on était 73, quelque chose comme ça, Lyon, Genève, Lausanne, et on arrive là-bas.
On va peut-être rappeler que vous êtes bien préparé avant. La chose en amont a été dûment préparée, vous vous êtes vus, vous êtes rencontrés, vous avez préparé des choses, etc. Vous n'êtes pas parti, c'est pas un départ spontané, c'est quelque chose qui a été programmé.
Oui, il y a eu un comité justement d'organisation de différents endroits dont par exemple Mathilde faisait partie avec quelques autres personnes. Ces personnes-là ont été chargées d'organiser le déplacement jusque là-bas et puis d'être en contact, Mathilde le dira mieux que moi, mais d'être en contact avec les gens sur place pour savoir où est-ce qu'on peut dormir, où est-ce qu'on peut poser nos tentes, comment ça se passera sur place, et puis donc de faire le lien, et c'était extrêmement important d'avoir ça. Donc c'est clair qu'on n'y va pas de manière improvisée là-bas.
D'accord.
Donc là-bas, c'est vraiment une grosse organisation. Typiquement, sur cette action, ils ont dit qu'on était 6500 activistes. Donc ça nécessite de réels moyens. En plus, donc le camp de base légal qui était prévu, il a été vidé par la police. Donc ils ont dû, en dernière minute, trouver un autre camp pour accueillir les activistes, afin de pouvoir accéder à la mine. Et puis là, en l'occurrence, on a trouvé un camp, ils et elles ont trouvé un camp à 15 km des mines. Celui qui était proposé par la police était à 30 km des mines, ce qui est quand même un peu loin, sachant qu'on veut faire... Voilà, exactement.
Qui avez-vous trouvé sur place ? Était-ce extrêmement cosmopolite ? Était-ce des gens d'un petit peu partout en Europe ? En tant que francophone, c'était facile ou vous avez dû ressortir des vieux souvenirs d'allemands ?
C'était extrêmement facile en tant que francophone. Il y avait vraiment beaucoup de Français, de Belges, de Suisses. Il y avait en fait Donc, comme on l'avait dit la première fois, c'est organisé en différents fingers l'action après. Et il y avait un finger international, donc avec des francophones, mais aussi des Suédois, des Danois, des je ne sais plus quelle nationalité.
Cosmopolite, quoi, disons. Ouais. Qu'entends-tu par finger ?
Donc, en fait, c'est des différents groupes d'action de centaines, voire mille personnes, je dirais, qui vont se concentrer sur différents objectifs avec différents moyens. Et en l'occurrence, le finger international dans lequel on a été, qui s'appelait le Silver Finger, il avait comme objectif d'aller bloquer les rails qui amenaient à la mine.
D'accord.
Mais l'objectif de chaque finger n'était pas connu par toutes les participants et toutes les participantes du finger. Donc ça, on l'a su sur le moment même pour nous, en tout cas pour notre part, on l'a su en faisant l'action. Sur le moment même, on a compris quel était notre objectif. Okay. Pour des raisons de confidentialité et autres, etc. Tous les participants et participants du finger n'étaient pas au courant, seulement un petit nombre savait quel était l'objectif.
Une question qui a deux voire trois volets. Les actions, si vous vouliez témoigner de quelques actions emblématiques, en tout cas auxquelles vous avez participé. La répression, qu'en est-il ? Est-ce que vous avez pu aller jusqu'au bout ? Est-ce que ça a été délicat, compliqué, brutal ? Et ensuite, l'impact que ça a pu avoir sur la population et les médias locaux, parce que c'est quand même ça qui est visé, c'est, j'imagine, de contre-informer et d'alerter la plus grande marge de population possible.
On va surtout pouvoir parler du coup du Silver Finger avec lequel on a passé le samedi et le dimanche en l'occurrence. Ce qui est chouette de dire, c'est qu'on a atteint du coup l'objectif qui était de bloquer ces rails. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti, on était un très gros finger et on était, quand notre départ le samedi matin, on était accompagné par deux autres fingers. On a été à un moment, on est parti en manifestation légale, on a été bloqué par la police. Après des discussions, ils nous ont laissé continuer en détournant notre chemin, ce qu'on a accepté, et finalement il y a eu un top départ qui a été lancé et une traversée des champs pour couper à travers champs et pour pouvoir atteindre les rails de train. Dans cette traversée, il y a, je dirais, à peu plus ou moins la moitié des manifestants et des manifestantes qui ont réussi cette traversée, parce qu'évidemment la police a fortement tenté de bloquer les choses. On a dû traverser un champ, des barrières, en sprint, en stress. Une autoroute aussi sur laquelle il y avait... l'autoroute avait été bloquée au préalable, mais il y avait des chars à eau qui nous attendaient, et des policiers évidemment. La première moitié des manifestants et des manifestantes, en l'occurrence des activistes, ont réussi à passer. Pour les autres, ça a été un peu plus compliqué. Du coup, on est arrivé sur ces voies. Nous, on fait partie des personnes du coup, qui ont réussi à traverser pour arriver jusqu'aux voies de train. Et là, on est resté et on s'est amusé et on a montré qu'on tenait. On a passé la nuit sur des rails, il faisait un peu froid.
C'était assez confortable, mais oui, ouais. ça s'est bien passé.
Vous avez pu rester toute la nuit ?
Ouais, et donc il y avait des policiers et policières qui nous encadraient. Et, en fait, donc, nous, on était en contrebas au niveau des voies ferrées. Et puis plus haut, justement, il y avait un certain nombre de fourgons de police et des lignes de policiers qui restaient là et qui étaient bien présents. Et puis, alors, il y a quelques petits groupes de personnes qui sont partis à des moments de la journée, mais la grande partie des gens qui avaient réussi à atteindre les rails sont restés le soir, la nuit. Et jusqu'au lendemain, jusqu'à 11h du matin le lendemain, on était à peu près 4 500, c'est ça ? Tu dirais ?
Variable, parce qu'il y a des groupes qui partaient, il y a aussi des groupes qui ont réussi à nous rejoindre, dans celles et ceux qui ont été bloqués par la police avant. Il y a certaines personnes par petits groupes, du coup, qui ont pu nous rejoindre.
Donc ça veut dire quand même de nombreuses heures sur place dans une nuit qui peut être effectivement relativement fraîche pour le moins. Comment ça se passe ? Est-ce que vous aviez avec vous du ravitaillement ? Vous aviez avec vous tout le matériel qu'il fallait ? Ou est-ce que par la suite des personnes, pourquoi pas la population même locale, vous a permis de tenir le coup ?
On avait de quoi tenir plus ou moins. Après, il y a un esprit qui est très de partage, ce qui était super chouette. Il y a aussi une super bonne ambiance, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de slogans, il y a de la musique, il y a plein de jeux, l'ambiance est vraiment festive. Après, il y a des fois 2-3 policiers qui sont un peu inquiets, qu'on s'éloigne trop, du coup ça recogne un peu, enfin se sent un peu de nouveau oppressé comme ça. Plus généralement, l'ambiance était vraiment festive. C'était difficile pendant longtemps de faire amener de la nourriture parce que les flics, les policiers, les policières bloquaient le ravitaillement. Ouais. Au cours de la nuit, je sais pas vraiment, au plein milieu de la nuit, ça devait être 3 heures, quand on a réussi à faire venir quand même de la nourriture pour
la soupe chaude qui nous a sauvés.
Vraiment super chouette. Enfin,
personnellement, qui m'a sauvé. Et puis on avait des couvertures de survie aussi qu'on nous avait données. Et puis on avait pris nos sacs de couchage, nos matelas. On avait de la paille aussi à mettre sur les rails pour nous réchauffer aussi un peu. Et on était assez serrés les uns et les unes contre les autres. Donc ça réchauffait pas mal.
Ouais, et puis à la motivation qu'il y a là derrière, j'imagine, tout le temps, indéfectible.
Et mais, après, sur oui, le. Donc, pendant l'action, ce que je trouve qui est très intéressant de voir, c'est que tout fonctionne au consensus. Donc il y a des plénières assez en continu, en fait, où chaque groupe, on est par groupe affinitaire de 6 à 15, je dirais, 6 à 15 personnes qui tentent de rester ensemble. Chaque groupe affinitaire va avoir un délégué, une déléguée qui va emmener en plénière. Et en plénière sont discutées diverses choses sur justement comment on gère les choses, comment on gère le départ, quand est-ce qu'on part, comment on gère les réponses avec la police, qu'est-ce qu'on fait ici, etc. Et tout se fait vraiment au consensus.
Avant le samedi matin même, on est parti pour l'action. Il faut savoir aussi que le vendredi, donc le lendemain du jour où nous sommes arrivés, on a eu toute une journée en fait où on a pu se rencontrer avec les différentes personnes, former des groupes affinitaires, où on se sentait bien de 6 à 15 personnes, comme tu as dit, et puis des binômes. Et puis c'était important d'être aussi en binôme, parce que, et pendant toute l'action, donc tout le déplacement jusqu'au rail de chemin de fer, comme il y a des moments où c'est un peu difficile, où on doit escalader des trucs, où il y a des policiers autour de nous et policières, c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse veiller sur nous, quelqu'un sur qui on peut compter, et donc d'être toujours par deux, sauf incident évidemment, mais d'essayer de toujours rester par deux. Et puis les quelques personnes qui ont eu un souci, souvent leur binôme est resté auprès d'eux ou auprès d'elles pour regarder que tout se passait bien, etc. Donc il y a vraiment ce côté de faire attention aux autres, d'être dans des groupes affinitaires, et puis de fonctionner par consensus, comme tu as dit, au niveau du binôme, ensuite au niveau du groupe affinitaire, et ensuite au niveau du finger, même si l'objectif n'était pas connu sur où on se place en tant que groupe affinitaire au sein du finger, si on veut prendre plus ou moins de risques, et si on veut être plus ou moins devant ou derrière les lignes, si on veut prendre plus ou moins de place dans l'action ou pas, etc.
On voit bien que là qu'il y a une auto-organisation horizontale et fine, également vraiment concertée, mais extrêmement méticuleuse, pourrait-on dire. Si jamais des questions surgissent, n'hésitez pas, il y a un micro qui est là, qui est fait pour et qui est ouvert. Donc voilà. J'aurais envie de vous poser la question sur. Alors, vous parlez justement de la police. Quelle a été l'attitude de la police ? Quelle, en général, avez-vous pu observer comme différence entre ce qu'on voit ici à Genève et là-bas en Allemagne ? Et y a-t-il moyen là aussi de. Il y avait un temps où les policiers avaient un délégué avec un brassard blanc, désarmé, avec lequel on pouvait à tout moment causer si tout d'un coup l'action changeait ou des décisions venaient à être prises. De quelle manière est-ce que ça s'est passé là-bas ?
Je pense que pour mieux pouvoir répondre à la question, on peut juste peut-être continuer la fin du week-end parce qu'il n'a pas été le même pour tout le monde. Du coup, sur le matin, le dimanche matin, il a été décidé en plénière qu'il y avait un gros départ à 11h qui se ferait avec la grande majorité des activistes qui voulaient partir. C'était en accord avec la police dans le sens où il n'y avait pas d'arrestation qui allait être faite quand les activistes sortaient des lieux. Et donc à 11h, il y a eu un gros départ d'activistes. Et certains et certaines.
Plusieurs milliers de personnes.
Voilà, exactement.
L'accord a-t-il été respecté ?
Oui.
Voilà.
Tout à fait.
Certains et certaines ont décidé de rester sur les lieux et de bloquer jusqu'à ce que la police nous arrête. Voilà.
Dont nous.
Et nous faisons partie du coup de celles et ceux qui sont restés. On était, je dirais, 150 à rester sur les rails. Certains et certaines d'entre nous se sont loqués aux rails. Ils et elles avaient pris des chaînes et des tubes. C'était assez bien fait pour s'accrocher vraiment aux rails à plusieurs. Et en fait, les personnes autour, dont nous, on s'est mis en sit-in pour en fait pour essayer de les protéger. Et on était tous bras dessus pour faire blocage, pour bloquer de nos corps les personnes qui étaient loquées, qui devaient être, je sais pas, une dizaine, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que donc à 11h, le gros groupe est parti, et je dirais qu'une dizaine de minutes plus tard, la police nous nassait et commençait à nous enlever un par un, une par une. Et là, il y a plus de brutalité déjà policière qui apparaît.
Ouais. Alors quel type de brutalité ? Et effectivement, y a-t-il eu des arrestations ? Vous y avez déjà répondu, mais précisons.
Du coup, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que la police légitime vraiment sa violence, dans le sens où avant de venir de manière brutale nous retirer parce qu'on est en train de bloquer de nos corps, elle vient vers nous et elle nous dit que si on n'a pas envie d'être violenté, il n'y a pas de souci, on peut venir avec eux, et ils nous mettent tout de suite dans le fourgon parce qu'on se faisait donc embarquer. Et donc il y a vraiment ce discours de légitimation de la violence qui va suivre, en nous disant, en nous faisant presque culpabiliser sur le fait que si on reste, bah, c'est de notre faute si on va avoir des coups et on va être en fait violenté.
Ouais, non, c'est vraiment ça, c'est incroyable comme un policier qui est censé jouer le rôle de policier gentil ou policière gentille qui vient nous dire, ah là, si jamais vous pouvez venir avec moi, etc. Et si on le fait pas, il nous prévient que ça va être, bon, ils vont utiliser de la contrainte ou de la force pour, par rapport à nous, et donc potentiellement des coups. Et donc tout est fait exprès pour qu'on soit comme si on était légitime, comme si on consentait en fait, et qu'ils étaient légitimes à utiliser de la force vis-à-vis de nous. Alors que nous, on ne veut pas entrer en matière là-dedans et on dit juste on reste là. Notre stratégie face à eux et à elles, c'est la résistance passive, c'est-à-dire qu'on reste sur place, on n'a pas de geste contre eux, mais on ne se laisse pas non plus faire. On fait poids mort, justement, ils doivent nous porter, nous tirer pour nous amener jusqu'au fourgon.
Voilà, il n'est pas question de leur faciliter la tâche,
voilà,
c'est ça.
Exactement.
Alors, bon, il y a l'arrestation, certes, et puis ensuite, il y a la partie au poste. Bah, vous allez nous dire comment ça s'est passé, si effectivement, là, on est quand même dans un respect relatif de l'humanité et des droits des personnes. Et puis ensuite, il y a, quand on sort, les poursuites. Est-ce que ça, vous savez, qu'est-ce qui va vous arriver par la suite ?
Alors, Théo et moi n'avons pas vécu exactement les mêmes expériences par la suite, parce que donc il y a eu plusieurs fourgons qui sont, enfin fourgons, plusieurs groupes qui sont partis. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que donc à 11h et quelques, la police nous menaçait. Nous, on fait partie des dernières personnes à être, par hasard, parce qu'ils nous prenaient une par une, un par un, on fait partie des dernières personnes à être restées sur les rails, et on est parti à 18h. Donc on a quand même tenu un sacré bout de temps, je dirais, dès le début des arrestations. Le groupe de Théo est parti en voiture. Et le groupe dont je fais partie, on est parti avec le train. On est arrivé au même poste de police, mais on n'a pas vécu les mêmes expériences. Entre autres parce que nous, il y a deux activistes assez géniaux qui se sont un peu plus loin sur les voies de train, reloqués en fait, sur les voies de train.
D'accord.
Et du coup, le train dans lequel j'étais avec les 50 manifestants, manifestantes, activistes qui allaient en direction de la police, on a été bloqués pendant un certain nombre de temps par deux activistes seuls, qui s'étaient loqués sur des rails quelques kilomètres plus loin. Et pour ça, du coup, il y a dû avoir un dispositif gigantesque de policiers et policières qui sont arrivés, des pompiers, tout ça, pour deux personnes qui étaient là. Donc ça a encore pris du temps. Et en fait, notre groupe, ils ont fait énormément attendre. On était un groupe qui était extrêmement soudé et qui a tout de suite pris contact avec la legal team de Ende Gelände. Du coup, on connaissait nos droits et on les demandait et on les revendiquait. On faisait beaucoup pression, on était très unis et unis. Ce qui a fait aussi que ça a pris beaucoup plus de temps, et on en a parlé après avec Théo, on n'a pas eu la même expérience après au poste de police. Théo, il est sorti vers 9h le soir, si je ne me trompe pas, vers 9-10h. Nous, on était sortis à 2-3h le matin. Et à 2-3h le matin, apparemment, les policiers et policières n'avaient plus tout à fait la même bienveillance, on va dire, avec nous. Et donc, jusqu'au poste de police, c'était assez brutal.
À quoi, je pense qu'avec Théo, c'était plus... rigolade.
Ouais. Donc nous en fait, on a été séparés au moment où justement on était sur les rails, et puis nous, on a eu le droit à un traitement particulier, c'est-à-dire que les fourgons de police étaient en haut, nous on était en contrebas au niveau des rails de chemin de fer, et puis pour nous monter jusqu'en haut comme on faisait les poids morts, c'était compliqué de nous porter un à un et une à une. Du coup, ils ont sorti les luges en fait, et on a eu le droit, on a été enlacés dans des luges, et ils nous ont tirés, nombreuses personnes nous ont tirés pour nous envoyer jusqu'au fourgon, donc ça faisait une expérience assez incroyable.
Effectivement.
Voilà. Et ensuite, on a été mis dans les fourgons. Il y a eu une personne quand même qui a dû partir en ambulance à cause de
mauvais traitement.
Exactement, ouais. Je crois qu'ils mettaient des fois les mains sur la tête, des fois ils appuyaient les genoux contre la tête ou la tête contre le sol, etc. Et sinon, dans le reste du bus, ça allait. Et puis on a fait un petit trajet, on est allé jusqu'à la prison de Arun, pas très loin justement de là. Et puis nous, alors ils ont pris le temps vraiment, on a été fouillés, ils nous ont pris les empreintes. Et par contre, on n'a pas, enfin personnellement et la plupart, c'est pareil, on n'a pas donné notre identité et puis on n'a pas collaboré avec elle et eux de la police. Et heureusement, donc ce qu'on aimerait souligner, c'est que le rôle d'Ende Gelände, l'organisation était super par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on se retrouvait sans nos téléphones, sans carte d'identité, sans rien, sans argent et même sans notre sac à la sortie de la prison. Et là, il y a une équipe qui nous a accueillis, ils avaient à boire, à manger, de quoi nous réchauffer. fait, un endroit où on pouvait aller, et puis ils nous ont pris, ils nous ont demandé si tout allait bien, ils ont fait un téléphone, ils ont appelé la legal team pour prévenir qu'on était sortis, et on a eu un super accueil, etc. Et ensuite on a eu une voiture qui nous a ramenés jusqu'au camp où on avait nos autres affaires, et on a amené nos autres affaires au camp, donc c'était vraiment incroyable, et ça a fait que notre expérience s'est bien passée, mais oui. sans elle et eux, ça aurait été vraiment
la catastrophe.
Ouais, exactement, ça aurait été vraiment chiant. Ouais, vraiment, ouais. Enfin.
Alors, pour souligner typiquement le côté inhumain d'après du comportement des policiers et policières avec nous, enfin, on a été donc depuis 11h le matin, on était nassés, donc on n'avait pas vraiment de moyens d'avoir accès trop à de l'eau ou à de la nourriture, et les policiers et policières refusaient de nous en donner, et nous, mon groupe, on est sorti à 3h le matin, et on a dû attendre 2h pour obtenir, pour un bus de 50 personnes, 6 petites bouteilles d'eau. Alors qu'on était 50 et que depuis un certain nombre d'heures, on n'avait pas d'eau, et que c'est quand même un de nos droits de pouvoir boire et manger. Alors finalement, au poste de police, ils nous ont quand même donné un sandwich chacun et chacune, mais c'est sûr qu'à la sortie du poste, quand il y a le bus d'Endegelende qui nous accueille avec vraiment du thé chaud et de la nourriture, c'est pas la même chose, quoi.
C'est clair. Alors voilà, ça on va le redire. Organisons-nous lorsqu'il y a des actions comme ça, en amont, pendant et en aval, parce qu'effectivement, c'était toutes des questions auxquelles vous avez répondu avant que je ne vous les pose. C'est effectivement lorsque l'on sort et puis qu'on est dans un état où on a subi des pressions physiques et psychologiques, eh bien on doit être quand même, en plus il fait froid, c'est la nuit, on ne sait pas où aller, on ne sait plus très bien où on est. J'imagine que c'est des moments extrêmement douloureux. D'ailleurs, justement, quels ont été pour vous les pires moments, ceux vraiment qui ont été à la limite du supportable? Ou est-ce qu'on peut dire que d'une manière ou d'une autre, avec cette organisation qui était présente et le fait que vous sachiez que vous étiez entre guillemets dans de bonnes mains, vous a permis justement de supporter énormément de choses et puis de traverser ces moments funestes sans laisser trop de plumes?
Personnellement, je dirais que ça s'est franchement bien passé. Ouais. Il y a juste eu le souci que du coup, on a loupé notre bus parce que le bus qu'on organisait partait le dimanche soir. Et ben, typiquement, j'étais encore sur le chemin de fer à ce moment-là. Sinon... Il y a eu un petit moment de doute quand on est rentré au camp, nous, à 3h le matin, parce qu'on ne trouvait plus nos affaires, et c'était un petit peu inquiétant, mais autrement, il n'y a vraiment pas eu... On a réussi à trouver... En fait, on était 4. Du bus de Genève, on a été 4 à être arrêtés et à louper le bus du retour. Et du coup, par chance, dans ces 4 personnes, il y a eu 2 personnes qui sont parties en train, 2 personnes en luge, donc on a quand même réussi toujours à pouvoir avoir quelqu'un qu'on connaissait avec nous, ce qui était assez soulageant. Et à 3h le matin, quand on s'est retrouvés les 4, c'était joyeux.
Ah bah c'est bien, c'est génial. Dites-moi, la population locale là-bas, les personnes aux abords de la forêt de Hambar, quel est leur état d'esprit? Et puis, qu'en est-il quand ils vous voient arriver de tous ces pays différents? Et puis, même question concernant les médias locaux, est-ce qu'il y a un relais honnête qui se fait ou est-ce que non?
Alors juste très localement, disons, il y a pas grand monde, il y a même personne parce que les villages sont vides carrément, et on a fait le test nous-mêmes, c'est-à-dire que comme on était dans le bus, on nous a amené jusque depuis ces rails de chemin de fer jusque dans la ville de Arran, dans le commissariat. En fait, on a traversé un peu une partie de la région autour de la mine, etc. Et en fait, il y a des villages, mais c'est des villages vides, pratiquement abandonnés, qui appartiennent en grande partie à RVE. Donc, il faut savoir que déjà, il y a pas grand monde tout proche à cause évidemment de tout ce qui se passe là-bas. Et après, sinon, de manière plus générale dans la région, la vie par rapport à ça. Alors, je crois qu'on avait discuté avec, je sais pas si tu voulais dire, par rapport à avec un autostoppeur par rapport à ça, par exemple, qui nous disait que c'était à peu près 50-50 dans la région, et puis qu'il y avait une grande partie qui soutenait parce qu'il trouvait que c'était quand même dingue ce qu'il faisait, etc. Et puis, en même temps, il y avait la peur d'une autre partie des gens de la région de perdre leur travail. Et c'était plutôt... évidemment, il faut les considérer, ces personnes-là, etc. Mais apparemment, il y avait tout un discours de personnes qui, ont peur pour leur travail, pour leur revenu, etc.
Typiquement, des échos que j'ai eus, des personnes qui sont rentrées des rails, qui sont rentrées au camp des rails sans se faire arrêter, ils sont partis en manifestation légale. De cette manifestation légale, apparemment, il y a eu tant des personnes autour de la manifestation qui venaient les applaudir que des personnes qui faisaient de joyeux fuck ou ce genre de choses, donc assez variable.
Les médias, enfin, voilà une question sur les réactions des personnes locales. Donc les médias, les assos du coin, si jamais il y avait par exemple des comités citoyens de défense de la forêt de Hambar, enfin, toutes ces choses-là. Et puis les politiques, est-ce qu'il y a quand même des gens, le maire du coin qui s'est mobilisé, qui est venu voir, qui est venu dire non mais c'est pas possible ou quoi?
Par rapport aux politiques, nous, quand on était en arrestation, on a eu un lien avec un parlementaire de Die Linke qui était prêt à engendrer les poursuites, à nous soutenir. Donc c'était 2h le matin et on savait qu'il y avait un parlementaire de Die Linke qui était là pour faire pression. Ensuite, en ce qui concerne les médias, j'étais assez contente parce que je trouve que c'était assez bien couvert par différents médias assez généraux. Et enfin, des médias, il y avait Brut, il y avait Combini. Après, en Suisse, il y a eu un article dans Le Matin et le 20 minutes, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas tant que ça a été couvert. Par contre, il y avait la RTBF, il y avait les médias allemands, beaucoup. Il y a la chaîne YouTube Partager, c'est sympa. Vincent, je ne me rappelle plus son nom de famille.
Merza, je crois.
Par contre, par rapport aux médias et à la communication en général, c'était un des buts quand même de l'action. Alors évidemment, on a bloqué les rails de chemin de fer, comme une route a été bloquée, comme il y avait l'objectif de la mine, etc., différents objectifs. Mais la communication était un objectif, justement, qui se retrouvait dans ces différents, pour les différents fingers. Et typiquement, le fait de bloquer des rails de chemin de fer, c'était un signe fort pour montrer que de nombreuses personnes de cosmopolites, justement, enfin de beaucoup d'endroits différents, etc., venaient pour faire cela. Et puis, du coup, bon, on a eu des discussions un peu là-dessus, mais... C'est probable que la police était plus ou moins au courant de ce qui allait se passer. Enfin, on ne sait pas à combien, mais enfin, vu tout le monde qu'il y avait, elle se doutait évidemment de quelque chose. Enfin, et puis, et qu'elle nous ait laissé finalement, vu le nombre qu'on était, faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire, même si elle a arrêté une partie des gens, de prendre les rails de chemin de fer. Après, par contre, à partir du moment où des personnes, comme tu as dit, se sont attachées aux rails, etc., là, ça dépassait, entre guillemets, le cadre de ce qui était tolérés, plus ou moins tolérés. Et là, ils ont tout de suite réagi différemment. Et donc, le but, c'était vraiment qu'on fasse nos petits trucs et qu'on parte après. Et si on restait un peu plus que prévu, si on faisait des choses qui étaient considérées comme sortant du cadre de ce qui était encore légitime, là, ils ne se gênaient pas pour intervenir et pour nous montrer que nous, on était le noyau méchant, le noyau dur. Mmh.
Je pense qu'on peut juste dire, pour revenir deux secondes à l'action, que dans les autres fingers, il y a aussi pas mal de gens qui ont été arrêtés. Et il y a des personnes qui ont réussi à atteindre les mines. Si je ne me trompe pas, une cinquantaine de personnes qui ont réussi à atteindre la mine. Il y a des fingers qui ont été complètement bloqués et qui n'ont pas du tout abouti. Mais le gros du finger, le gros des fingers, c'était quand même le blocage du rail.
Ouais. Alors, on l'a vu, politique, il y a quand même eu quelqu'un de Die Linke qui est venu. Les médias, ben, vous l'avez dit, la population en gros 50-50. Y a-t-il eu des associations justement qui sont venues vous soutenir typiquement? Tu vois, des gens qui ne sont pas dans l'action proprement parlée, mais qui viennent donner des soins, donner à manger ou soutenir des choses comme ça ou pas?
Alors, je ne suis pas à fond dans l'organisation, donc je ne suis pas capable de répondre, mais je pense que je peux dire que oui. Enfin, typiquement, rien que pour le bus qu'on a organisé, on a reçu des fonds de différentes organisations, donc oui.
Donc on peut dire que la solidarité internationale, là, elle a cours.
Mm-hmm.
Très bien, très bien. En débrief général, est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que ça, vous l'envisagez pour ces prochains temps? La question qui va avec, c'est que va-t-il vous rester? Et puis ensuite, on ira sur que va-t-il advenir?
Alors, au centre Break Free, on a fait un repas de retour câlin et puis récit. Ensuite, je sais qu'il y avait en tout cas l'idée de faire un retour au niveau francophone, donc que chaque groupe envoie un délégué, un Skype général pour faire un retour francophone. Je ne sais pas si ça va avoir lieu ni quand, mais ça va peut-être se faire.
Et puis alors, selon vous, qu'est-ce va-t-il advenir? Est-ce que d'autres actions sont envisagées pour la suite? Cette forêt, est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, cette mine va... Enfin, qu'on va stopper cette mine et puis que la forêt, ce qu'il en reste... Parce qu'on, lorsqu'on s'était vu la première fois, on avait fait... On avait dit, voilà, c'est une forêt qui a vraiment diminué du 3 quarts, quoi, quasiment, du 4/5, même, on peut dire. Selon vous, est-ce que vous êtes un petit peu optimiste pour la suite ou pas du tout? Ou est-ce... Voilà, comment vous sentez?
Alors, concernant le cas particulier de la forêt de Ambar, etc., je ne sais pas exactement, je ne saurais pas dire ce qui va advenir. Ça, mais en tout cas, alors, optimiste, par contre, oui, mais sur la mobilisation qu'il y avait et sur le fait de ce qu'on communique aux autres, et je pense des choses vraiment positives, de montrer que les gens sont déterminés pour faire changer les choses. Plus, il y avait, en entendant les slogans et en discutant un peu avec les gens, c'était des gens souvent qui se... qui se mobilisaient pour d'autres luttes aussi. Et il y avait vraiment un esprit plutôt solidaire, très sympathique, très cosmopolite. Ça, ça fait plaisir. On a eu une super ambiance justement avec le CAR et les gens qui sont partis de Genève, Lausanne et Lyon. Et donc, on a créé quelque chose de fort avec elle et eux qu'on retrouve aussi ici. Donc, je trouve que c'est vraiment... Je suis très optimiste par rapport à ça. Et même si, évidemment, la situation du réchauffement climatique n'incite pas du tout à être optimiste, par contre, les actions pour faire changer les choses et les transformations me donnent plutôt envie de croire à ce que des choses sont possibles, en tout cas, à faire.
Qu'en dis-tu ?
Rajouter que, enfin, typiquement, je parlais avec une femme qui est venue de Prague parce qu'il y a eu un train qui a été organisé en fait depuis un gigantesque train qui a été organisé depuis Prague, passé par Berlin, etc. Et elle était super enthousiaste et surtout super enthousiaste du coup à nous faire tous venir et toutes venir à des actions de masse qui se préparent apparemment l'été prochain là-bas. Et elle était aussi super enthousiaste de savoir qu'est-ce qui se passait en Suisse. Donc, ce genre de mouvement permet aussi de créer une sorte d'enthousiasme général sur le fait que c'est possible d'être nombreux et nombreuses et le fait que on va faire avancer les choses comme ça.
Très bien, très bien. Comment est-ce qu'on se tient au courant des prochaines choses potentielles? Le site Ende Gelände, tout simplement.
Oui, ouais. Et le site de Ambi Bleibt.
Ah oui, absolument. Ouais. On les a mis en lien sur l'article et puis votre premier entretien sur Libre Radio. Vous risquez quelque chose après cette arrestation, des poursuites ou de quelle manière est-ce qu'éventuellement à Genève, les gens pourraient se mobiliser s'il y avait besoin? Pour le moment, on ne sait pas.
Alors, on est resté théoriquement anonyme. Après, ils ont pris nos photos pour le groupe de Théo, ils ont pris les empreintes aussi, ce qui n'a pas été notre cas parce qu'on avait tous et toutes de la colle sur les doigts. Super technique.
Ah, bien, bien. Alors, précise, ça veut dire de la colle, c'est-à-dire de la colle blanche comme ça,
c'était de la colle assez forte qui sèche très vite.
D'accord.
Et je pense qu'ils ont été simplement découragés. Ils peuvent très bien nous laver les doigts,
si
évidemment.
Ouais.
Mais sachant qu'on a un bus qui arrive à 50, qu'en plus c'est 2 heures le matin, je pense qu'ils ont été simplement découragés par le fait qu'on était tous et toutes comme ça.
Ouais, des fois, on se met de la terre et puis justement, on met de la colle par-dessus, puis ça complique un peu la tâche.
Ouais,
des
policiers, très bien.
Après, ils peuvent clairement nous retrouver parce qu'ils ont les photos de nous, etc. Ende Gelände, c'est une organisation qui n'est pas toute récente et qui est vraiment importante et qui a l'habitude, entre guillemets. Alors déjà, ça prend du temps, donc on ne va pas le savoir tout de suite. Si on est, voilà. Et après, je pense que de Ende Gelände, on va recevoir clairement un soutien et il faudra s'organiser ensuite en conséquence, selon comment.
Mais selon des participants et participantes d'autres années qui ont aussi été arrêtés, il n'y a pas eu après-coup de poursuite ni rien de spécial. Alors peut-être ça dépend les retours, ça dépend les personnes. Enfin, en tout cas, tout le monde n'a pas été inquiété. Donc on verra pour
Exactement.
Nous, on espère que non. Et voilà.
Des personnes qui peut-être ont été un peu plus loin, il y a eu.
Ouais.
Mais...
Et puis donc là, on parle bien sûr de notre cas qui est nous qui sommes restés juste pour bloquer, mais par contre, les personnes qui se sont attachées au rail, je pense qu'elles risquent des choses bien plus compliquées, et donc c'est pas comme si tout le monde était parti de Ende Gelände tout tranquille, évidemment c'est pas le cas pour tout le monde, et nous on a eu plutôt de la chance de ce côté-là.
D'accord. Est-ce qu'ici, il faut s'imaginer que vous allez peut-être organiser peut-être un témoignage ou un récit de tout ça, où des personnes pourraient justement venir un petit peu picorer et pourquoi pas se joindre à vous pour de prochaines actions, qu'elles soient ici, là-bas ou ailleurs?
Je pense que pour se joindre à des actions et pour participer à Genève, c'est chouette de venir à Break Free, je dirais.
Mm-hmm.
Même si on n'est pas toutes et tous de Break Free, hein, évidemment. Sur Lausanne, il y a le LAC, Lausanne Action Climat.
Ouais, Break Free, donc qui est un collectif qui lutte pour la justice climatique dans lequel on est, et puis qui organise souvent des différentes actions pour montrer justement qu'on se mobilise par rapport à ça, pour sensibiliser les gens, etc. C'est un collectif qui est très dynamique, il se passe plein de choses, et donc c'est un moyen de s'engager localement à Genève pour le climat, pour l'écologie en général, l'écologie politique, et après évidemment c'est un moyen parmi d'autres, et puis il y a une pluralité d'actions qu'on peut utiliser et une pluralité de luttes qu'il faut, dans lesquelles il faut s'investir, mais en tout cas c'est parmi d'autres, c'est un collectif qui permet de changer les choses localement.
Page Facebook en tout cas, Break Free.
Ou collectif Break Free Suisse ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas.
D'accord. On en termine là doucement. Dernière question, à moins que parmi nous, quelqu'un ait envie de poser une question. Ça a l'air d'être non pour le moment. S'il fallait lancer un appel ou s'il fallait répondre à une question que je ne vous ai pas posée, qu'est-ce que ce serait? Je vous fais le coup à chaque fois. Mais...
capitalisme.
Ouais, c'est, voilà. C'est ça, c'est la couverture du courrier qui est géniale, qui avait eu il n'y a pas longtemps. C'était sauver le climat, tuer le capitalisme, le petit geste qui compte. Pour nous, tout est là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut faire tous et toutes des petits gestes. C'est important de les faire de manière éthique pour être cohérent avec nos propres normes, notre propre conviction, nos propres valeurs, mais c'est pas ça qui va changer individuellement les choses. Il faut changer le système. Ça passe par, notamment par la lutte contre le capitalisme, le productivisme, etc. Et donc la nécessité de s'organiser collectivement, en groupe, et voilà.
Merci Théo. Mathilde, un dernier mot. On abonde.
Comme la dernière fois, j'approuve sur le mot de la fin.
Super. Théo, Mathilde, je vous remercie beaucoup. Bonne continuation.
Merci.
Et on va
merci
se retrouver beaucoup. Pour d'autres choses et d'autres choses.
Merci,
d'autres choses.
À Libre Radio.
Merci beaucoup.
Voilà, nous, on fait une petite pause, puis on revient juste derrière pour parler JRG, Jeunes Révolutionnaires Genève. Et puis, normalement, des personnes du courrier devraient être parmi nous également. On va en parler d'ici quelques minutes. Petite pause.